Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Annick Boulot, qui publie « Passage du cinéma 4992 » aux éditions Ancedonia. Une forme s'est mise à apparaître. Vous êtes cinéaste et enseignante, Annick Boulot, dans le cadre de ce que vous appelez une recherche pratiquante. C'est quoi une recherche pratiquante ?
Je dis pratiquante pour éviter de dire recherche pratique. Et donc pratiquante, il y a aussi comme un investissement personnel peut-être un peu plus fort. Mais c'est aussi pour ne pas tout de suite dire le mot praxis. Qui n'est pas forcément entendu de la même façon par tout le monde. Donc moi, je l'entends comme quand la pratique instruit la théorie et vice-versa.
Vous êtes attaché au vocabulaire grec de la philosophie ?
C'est venu très tard. Ça, c'est venu grâce à Jean Groulx. Donc, c'est venu après 2000. Disons, avant, j'avais des idées, j'avais des envies de faire, mais je ne savais pas à qui me rattacher. Et un soir, Jean Groulx, dans les années 2003-2004, à la fin de son séminaire, il nous dit « je vais vous lire un petit quelque chose ». Et il a fouillé dans son cartable. Il a sorti le chapitre « Energeia iactus » dans Dialogue avec Jean Beaufray, avec Heidegger, je crois, Jean Beaufray. Et là, il s'est mis à lire. Je ne comprenais rien. J'étais fatiguée, mais je savais que j'étais concernée. Et le lendemain, aussitôt, je suis allée à l'ABN et j'ai pris le livre et j'ai lu. Et je l'ai lu, relu. Et c'est là que j'ai découvert que ma façon de travailler, elle avait à voir avec la technique grecque. Avec l'energeia, donc plus qu'avec l'actus. Donc je suis plus dans l'accueil. Je fais du plan séquence. Je déclenche la caméra quand quelque chose m'intéresse, que j'ai envie d'approcher ou que j'ai envie d'accueillir. Et donc d'un seul coup, j'ai eu tout un vocabulaire à ma disposition qui me permettait d'avancer.
Et rappelons qu'entre 2000 et 2004, vous avez créé un groupe de travail actif que vous avez appelé « Ouvrir le cinéma ». Un groupe de travail qui réunit des enseignants, des étudiants. Et pour vous, c'est une activité formatrice.
Oui. Déjà, s'attaquer à la question du groupe. Comment faire vivre un groupe ? J'ai eu du mal, même si la question du groupe, j'y ai pensé depuis longtemps. J'y ai pensé aussi quand j'ai fait l'atelier de réalisation à Lyon, où j'ai toujours dit qu'avant de penser le cinéma, il fallait penser comment faire exister le groupe. Donc avec les étudiants à Lyon, ça a été plus simple, mais Lumière Lyon 2.
Et à l'École supérieure d'études cinématographiques
Oui, à l'ESSEC, j'ai fait un petit truc à l'ESSEC aussi pendant un an, oui. Donc c'est vrai que je pense davantage au groupe pour que chacun soit là, présent, et envie d'être là. Et donc chacun, c'est-à-dire eux, moi, tous les gens qui vont venir, pour que d'un seul coup, le travail soit du travail et pas seulement de l'effort. Voilà, donc c'est...
Vous avez aussi, Annick Boulot, été script, hein, et pas seulement scribe, comme on va le voir. Et également, ça, je ne veux pas le passer sous silence, productrice de radio pour une émission intitulée « Les nuits magnétiques ». Bon, c'était il y a bien longtemps. Vous aviez fait une série en 1988 intitulée « Confidence ». Mm-hmm. Et c'est peut-être en souvenir de cette série que ce soir, vous venez avec un tricot noir sur lequel je vois une broche qui a la forme d'une lune.
Quel rapport ?
La nuit.
Ah d'accord, oui.
En plus, la broche est assez magnétique, je dois dire.
Je l'ai achetée à Turin.
Alors, ces émissions de radio, ça vous a laissé un souvenir ?
Oui, et j'ai regretté de ne pas continuer. D'ailleurs, sur mon site, je fais souvent des petites notes sonores. Je me mets dans mon entrée, je ferme toutes les portes parce que j'habite près du métro. Et la nuit, devant mon petit micro, j'enregistre du son. J'adore ça.
Mais la façon de faire que nous avions à Nuit Magnétique ne vous rappelait pas un peu l'élaboration d'un film au cinéma ?
Non, parce que j'avais...
Ça s'apparentait un peu, quand même.
Oui, mais j'avais eu des petits soucis avec le réalisateur. Parce que je ne connaissais pas la façon de construire une émission. Donc moi, en tant que monteuse, j'étais arrivée avec tous les entretiens, avec déjà tous les extraits, cut in, cut out, tout était prêt. Alors que j'ai découvert au moment où on a eu le studio pour nous, et voilà, j'ai découvert qu'en général, il avait tous les entretiens et que c'est lui qui allait choisir. Mais c'était des entretiens d'une heure et demie et on en avait 5, 6 ou 7 et il fallait faire 4 émissions d'une heure et demie. Comment il pouvait écouter tout ça tout de suite ? Puis bon, moi, instinctivement, je fais du montage, quoi. Donc, j'ai pas du tout pensé même lui poser la question avant. Bon, ça s'est bien terminé, mais j'ai... Voilà, mon expérience de confidence, ça a été ça, de découvrir voilà, bon, ça. Mais c'était, j'ai fait du montage, ouais. Parfaitement, oui.
Le montage, c'est la grande affaire pour vous.
Oui. Mais je peux vous dire quelque chose...
confidence, faites-moi.
Oui, une confidence, voilà. En fait, c'est... vous savez, Lacan, il parle toujours de sa moitié de poulet, du livre... Et alors moi, quand j'étais petite, parmi les livres qui m'ont marquée, voilà, c'était Bécassine. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi on la trouvait idiote et pourquoi elle avait mauvaise presse. Donc dans Bécassine en apprentissage, elle est employée par une fermière et qui lui dit le premier jour, bon ben voilà, tu regardes, là, c'était la salle commune, et tu mets de l'ordre dans tout ça. Et Bécassine, première chose, elle observe. Elle n'agit pas tout de suite, elle observe, elle regarde. Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit une étagère avec du lait et des tomates. Et puis, il y a une grande armoire normande, et elle voit des draps blancs et des couvertures rouges. Et elle dit, là, ça ne va pas, ça. Donc, elle, toute contente de sa découverte, elle, je ne sais plus dans quel ordre elle le fait, mais elle va mettre le lait à côté des draps et les tomates à côté des couvertures rouges. Et moi, je trouvais ça formidable. Et je ne comprenais pas pourquoi les adultes pouvaient décrier Bécassine, parce que, bien sûr, je me le disais certainement pas comme ça, mais c'est vrai que ce n'était pas pratique de mélanger des aliments avec... avec des choses de la chambre, Mais en même temps, elle avait une certaine intelligence, le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge. Mmh. Et je crois que j'y pense régulièrement à ça, donc c'est pas pour rien. Donc je pense que le montage, ça a à voir avec ça.
Ouais. Et vos maîtres, donc, ce sont les Grecs anciens et Bécassine.
Bah oui, on pourrait dire. Les Grecs anciens pour le langage, mmh. pour les concepts, oui.
Ce qui vous intéresse, c'est le montage et aussi le questionnement.
Oui, le pourquoi, oui.
Questionner le cinéma.
Questionner tout. Même questionner... C'est plus que questionner tout, ça revient au « Qu'est-ce que je fous là » de Jean Houry, que je cite dans mon introduction. Donc être en permanence, en questionnement et en... Voilà, qu'est-ce que je fous là ? On peut l'entendre de mille et une façons, mais c'est tous les matins, hein, quand on se réveille. Pourquoi ? Voilà. Le questionnement, il va jusque-là, quoi.
Cinéma et philosophie, c'est le couple.
Ben, j'aime pas les couples. J'aime pas les couples. Ça m'a toujours posé problème, ça, dans les lectures de cinéma. Cinéma et philosophie, cinéma et littérature, cinéma... Par moment, on a besoin de la tension dialectique, mais je préfère des dialectiques multipolaires, si on peut dire.
Donc, on dira seulement philosopher le cinéma.
Pratiquer.
Et filmer la philosophie.
On est encore dans le duel, là. Pratiquer le cinéma. Et pratiquer le cinéma, c'est penser le cinéma, quoi. C'est un tout, quoi.
Alors, si vous venez ce soir... C'est pour parler d'un autre tout, qui est ce livre absolument étonnant, qui ne ressemble vraiment à rien de comparable, en tout cas. C'est un livre captivant, superbe, impeccable, bouleversant même, un très gros livre. Il y a combien, je ne sais pas, 800, 900 pages ?
992 pages.
992 pages.
On
ne
l'a pas fait exprès. Hein,
bon, il ne paye pas de mine. Quand on l'observe de loin, couverture blanche. Vous me disiez tout à l'heure que c'était vraiment le papier blanc le moins cher qu'on ait pu trouver sur la place. Avec à peine, je crois qu'il n'y a même pas votre nom sur la couverture.
Non.
Tout juste le titre, qui est un titre... un peu mystérieux, il faut bien le dire. Hein, passage du cinéma, virgule, 4992.
Il y a une histoire, disons.
Avec un éditeur, en plus, qu'on ne connaît pas non plus, sur la place, hein, Ancedonia, qui est une association, en fait, qui a pris en charge la publication de votre livre. Un livre qui est fait entièrement de citations. Donc, qui est une forme, hein, comme le dit la petite phrase que j'ai lue pour commencer, une forme que vous avez construite, inventée, à partir ou à travers ces 4992 citations que vous avez recueillies pendant une dizaine d'années dans les revues, les publications spécialisées dans le cinéma, sur... une période de temps, en fait, qui embrasse le XXe siècle.
Oui, le 20e qui accroche siècle.
On imagine que plus tard, vous en ferez un deuxième volume pour le XXIe siècle. Mais le XXe siècle, c'est tout de même le siècle du cinéma. Donc, c'est pas pour rien que vous l'avez choisi. Et chacun des fragments que constituent ces citations... Vous l'avez travaillé de façon cinématographique, c'est-à-dire comme un plan de cinéma à la table de montage. Il faut peut-être nous expliquer votre méthode.
Donc il faut repartir du début, mais très vite. Donc c'est né dans un atelier de réalisation, donc à l'Université Lumière Lyon 2. Je venais à la suite d'un réalisateur télé assez qui avait pignon sur rue. Moi, j'étais une illustre inconnue. Bien sûr, j'avais des choix que j'allais proposer aux étudiants, mais je ne voulais pas arriver à leur imposer comme ça. Et puis je voulais aussi faire attention à moi-même et ne pas être trop directive. Donc il fallait qu'il y ait un tiers, justement, entre nous. Et parmi les choses qui pouvaient faire du tiers, j'ai apporté un recto verso de fragments. Moi, je dis toujours fragments, je ne dis pas citations, pour des raisons précises. Donc un recto verso de fragments, pratique, disons, sur le raccord, le montage, le hors-champ, enfin des choses qui m'intéressaient. Et ça a été très utile, ça a très bien fonctionné. La deuxième année, j'en ai fait 5 pages. Et à la fin de la deuxième année, il y en avait déjà 30 pages. Et à la fin de la deuxième année, ça s'appelait « Parler avec les mots des autres ». Voilà, déjà, c'était le premier titre. Et donc le titre a connu des
bouleversements. 10 ans pour recueillir ces fragments. Et voilà. Pratiquement 10 ans ensuite pour en faire quelque
pour
chose.
Pour le monter. Oui, et donc après, j'ai pris goût et j'ai dépouillé systématiquement des revues. C'est-à-dire systématiquement, c'est-à-dire numéro par numéro, page par page. Ce qui veut, depuis donc 1895, j'ai décidé que c'était 95, donc ce n'était pas une revue de cinéma, c'était L'Industriel Forain. Et donc, ce qui était un peu excitant pour les premières revues, c'est qu'il n'y avait pas d'entretien comme maintenant. C'était pas marqué entretien avec un tel. Donc, il fallait tout lire. Parce que quelquefois, c'était un rédacteur qui, dans un éditorial ou dans un papier sur un autre sujet, finalement, se mettait à raconter avec des guillemets sa conversation avec quelqu'un. Donc, il fallait que je lise tout. Pour être sûr de ne pas, de pas laisser passer des choses, quoi. Voilà.
Et donc, chaque fois, il en ressortait une
alors, quand ça m'intéressait, j'étais sur ordinateur. Quand ça m'intéressait, je tapais et je me posais la question sous quel mot je pourrais le classer. Alors, quelquefois, je me mettais 3-4 mots. C'était juste comme ça. Voilà. Et puis, puis j'ai avancé comme ça. Et puis, à un moment donné, ça commençait à devenir très gros. Donc, l'entrée était déjà ouverte, si on peut dire. J'avais déjà mis un plan, un fragment. Et j'en trouvais un autre qui pouvait. Mais voilà. Et donc, à un moment donné, je ne savais plus, je ne m'en sortais plus. La mémoire ne suffisait pas. Et je me dis, il faut que je les numérote. Puis, je n'avais pas le courage, parce que j'en avais déjà pas mal. Et puis, un jour, j'ai vraiment dû me décider. Donc, j'ai dû faire 1, 2, 3, jusqu'à 2639. Et à ce moment-là, c'était encore plus systématique. J'ai eu donc mon fichier matrice, qui avait 2639, donc ce que j'appelle la forme 2639, j'ai ouvert un autre fichier où j'ai commencé 2640, et là j'ai numéroté 1 à 1, et j'ai petit à petit rajouté au fichier matrice, j'ai rajouté les fragments qui m'intéressaient, parce que j'en ai rejeté, bien sûr, c'est comme des rushs, il y a des chutes. Et puis après, bon, il y avait un premier montage qui se faisait, et puis après, il y a eu des heures et des heures de montage. Je faisais des tirages, je coupais les fragments, je les mettais sur mon bureau pour parce que quelquefois même sur l'ordinateur, je prenais des petits il y a un petit logiciel avec des petites feuilles, des petits post-it. Donc je jouais ça avec les petits post-it sur l'écran, mais quelquefois c'était pas assez. Il fallait que j'ai vraiment, donc je faisais un tirage et je me mettais sur la table à faire mon montage. Puis je collais, voilà.
Montage, c'est-à-dire des fragments les uns avec les autres,
avec
pas
les autres.
À l'intérieur de chaque fragment.
Non, les uns avec les autres pour voir du rythme, pour voir un peu voir ce que ça donnait comme ça. Et quelquefois, par exemple, parfois j'ai failli jeter, c'est-à-dire au rebut, j'ai failli jeter des fragments, et puis ça me faisait quand même mal au cœur, mais ça ne marchait pas. Et il suffisait que je trouve la bonne place pour que d'un seul coup, le fragment explose. Quoi,
Comment l'a trouvé, la bonne place?
C'est en tâtonnant, hein. Il n'y a pas d'autre moyen. Enfin, on dit en tâtonnant, mais c'est à son insu. Il y a tout ce qui vous échappe. Moi, je crois beaucoup à l'inconscient. Donc, je travaille toujours en sachant que tout ce qui s'est inscrit en moi, tout ce qui m'a marqué, toutes les traces, les choses dont je me souviens, les choses refoulées, tout ça, c'est sur le même plan et je suis prête à ça tout le temps. Donc, je sais en tâtonnant, mais c'est, c'est, c'est ce que vous êtes qui travaille à votre insu. Donc,
Alors bien sûr, ce sont les textes que vous avez retenus, et pas les voix, mais malgré tout, il y a un caractère polyphonique à ce travail, puisque les paroles qu'on peut lire, ce sont des paroles de tous les acteurs de la fabrication d'un film, aussi bien le cinéaste que le technicien, les acteurs, les producteurs, les distributeurs, les exploitants, etc.
Je les entendais parfois, les voix, je crois. Parce que je lisais pour faire le montage, puisque là c'est du texte, il fallait faire attention à la ponctuation, aux mots, etc. Donc il fallait que, il y avait vraiment une lecture intérieure pour voir à quel moment j'allais couper in, par exemple. Quelquefois j'ai coupé au milieu d'une phrase, quelquefois j'ai coupé, la personne répond non, on sait pas à quoi elle répond non, mais parce que d'un seul coup, ça lançait, il y avait du rythme, ça lançait quelque chose. Quelquefois, quand j'ai fait le montage entre deux fragments, ça m'est arrivé de recouper, parce que ce que j'avais au départ initié comme début, ça ne collait plus avec la fin du précédent. Donc, quelquefois, je retournais à la revue pour parfois rallonger en amont le fragment. Pour voir si, voilà, pour comment on peaufine un raccord, hein, c'est au photogramme près. Hein.
Le montage, pour vous, est un travail d'écriture. Vous dites que la lectrice s'est faite scribe et pas script.
Oui, scribe, j'ai tapé beaucoup. Hein. Je crois que c'est, je sais plus si c'est 5 ou 6 millions de signes. Donc je suis devenue très souple au niveau du doigté sur l'ordinateur. J'y ai jamais pensé, mais en tapant comme ça, tapant les mots des autres, les paroles des autres, parce que c'était souvent des entretiens, donc le geste, c'est comme celui qui, c'est quelqu'un qui écrit son livre sur ordinateur, il fait le même geste. Donc moi c'est pareil, mais sauf que je regardais le texte que je tapais. Donc il y a peut-être une appropriation quelque part, effectivement.
Vous dites d'ailleurs que cette deuxième décennie qui a été nécessaire pour que nous puissions lire aujourd'hui Passage du cinéma 4992 a été faite d'assemblages, de reliures, de modelages, de façonnages, mais et aussi un travail de fiction. Vous dites qu'il vous a fallu fictionner ces fragments.
Oui, mais peut-être pas dans le sens où vous l'entendez.
Ah, je ne sais pas. Je l'entends dans le sens que ça a, en général.
Parce que un de mes gros problèmes, j'ai un gros problème par rapport à la fiction.
Oui.
J'ai un gros problème par rapport à l'histoire, à la croyance, au récit. Mais ça fait partie, c'est mon histoire personnelle, ça.
La vraisemblance.
Donc, pas la vraisemblance, la croyance. Croire à ce qu'on me dit, croire à ce que je vois, etc. Et donc, quand j'ai voulu faire des images, je ne voulais pas raconter d'histoire. Donc un jour, je me souviens, Alain Bergala, il m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire, je ne sais pas trop quoi. Et je lui avais dit, je n'ai pas d'idée. Il m'a dit, mais moi non plus, je n'ai pas d'idée quand je veux faire un projet, quand je vais écrire un article pour les cahiers, je n'ai pas d'idée, il suffit de s'y mettre. Donc moi, je faisais un équivoque, là. Et c'est un jour, je me suis décidée à ouvrir le Gaffio, parce que tout le monde est dans la feinte, dans l'illusion, tout ça, moi non. Et d'un seul coup, je découvre que Fingo, premier sens de Fingo, c'est fingere ceram, c'est façonner, modeler la cire. Et ça, je ne l'ai retrouvé nulle part dans les entretiens, personne ne le dit. Donc un jour, de je ne sais plus quelle année, je me suis... Est-ce que je l'ai écrit ou est-ce que je l'ai enregistré? Je ne me souviens plus. Est-ce que je l'ai enregistré sonorement? Je ne me souviens plus. Mais il y a une conversation inédite avec moi-même, parce que c'est une idée que j'ai trouvée à nulle part. Même s'il y a des choses qui se rapprochent chez Piala, par exemple. Je ne sais plus où j'ai mis ça, mais il y a des choses qui se rapprochent. Mais le truc modelé, façonné, je ne l'ai trouvé nulle part.
Il y a donc une dimension esthétique à ce travail. D'ailleurs... La petite phrase que j'ai lue en ouverture, je la rappelle, c'est une forme s'est mise à apparaître. Vous êtes monteuse, certainement, Annick Boulot, mais aussi plasticienne.
Oui, modelage, oui. Ça, le modelage, modelage, sculpture, tout ça, c'est Didier Burman qui m'a fait son éducation là-dessus, dans ses séminaires. Là, c'est Via di Porro et Via di Levare et toutes ces choses-là pour l'art. Entre la sculpture, le modelage, ajouter, retirer, tout ça, les touches d'argile, c'est dans son séminaire que j'ai découvert ça.
D'ailleurs, vous avez appelé cette association dont on parlait Ouvrir le cinéma, et lui a intitulé l'un de ses livres Ouvrir Vénus.
Oui, alors Ouvrir le cinéma, c'est pas mon association, c'est le groupe de recherche, mais c'est vrai que je l'ai... D'ailleurs, dans le dossier que j'avais déposé à la DRAC à l'époque, je disais que le titre venait d'Ouvrir Vénus. C'était directement... c'était au moment d'Ouvrir Vénus. Donc, je l'ai appelé Ouvrir le cinéma. Et après, j'ai découvert toutes les possibilités que m'offrait ce titre.
Oui. Et pour définir le livre, vous avez recours à une métaphore qui est celle du ruban. Hein, vous parlez d'un unique long ruban d'écriture plié en double colonne sur 967 pages.
Oui, parce qu'en fait, ce qui était difficile pour moi, pratiquement, et puis aussi pour le graphiste, c'est que c'était un seul fichier. Il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas A, et puis un grand A, et puis la suite, et puis on change de page quand on arrive à B, etc. C'est un unique fichier. Donc, quand je faisais du copier-coller, quelquefois, l'ordi se plantait, quoi. Donc, j'étais constamment en train de faire des sauvegardes, etc.
Alors bien sûr, le titre retenu, Passage du cinéma, ne peut pas ne pas évoquer Walter Benjamin, l'auteur des passages, et aussi grand amateur de citations, bien que vous n'aimiez pas le mot citation.
Alors bien sûr, donc en fait... Le projet était soutenu longtemps par un éditeur et qui m'a lui aussi éduqué quant au titre. Donc il me disait qu'il fallait que le titre dise quelque chose de l'intérieur. Alors c'était très difficile parce que c'est pas très universitaire ce que j'ai fait. Donc il fallait un titre. J'en ai. Voilà. Et je ne sais plus pourquoi, à la fin, m'est venu Canriro de Steinbeck. Donc une adresse. Et donc j'ai pris passage pour vraiment rue, enfin un peu passage. Et puis, 4292, je m'étais trompée, je pensais que les adresses américaines, le numéro était à la fin. Alors que c'est pas vrai, non. Mais du coup, j'ai pris ce titre-là. Et du coup, ça m'arrangeait parce que je pouvais intégrer l'héritage de Benjamin, j'intégrais le cinéma. Et j'intégrais, c'est des fragments, il y a 4992 fragments. Donc je n'ai connu mon titre exact qu'à la toute fin, quand j'ai vraiment décidé d'arrêter le travail, que j'ai pu compter compter une à une. J'ai recherché les guillemets pour compter le nombre de citations. Donc j'ai un titre qui dit vraiment, effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur. Et en même temps, ça me plaisait bien parce que ça fait titre de roman, moi qui ne veux pas écrire d'histoire. J'ai quand même choisi un titre de roman, plus qu'un titre d'essai, disons.
Il y a évidemment tout un système d'entrée et de renvoi qui permettent la lecture et qui peuvent faire penser à un dictionnaire, bien qu'il ne s'agisse pas d'un dictionnaire du tout.
Non, justement... c'est vrai qu'au départ, je disais toujours, c'est pas un dictionnaire. Donc j'utilisais quand même, je faisais quand même référence au dictionnaire. Et de plus en plus, j'ai gommé ce terme parce que ça pouvait prêter à confusion. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a parlé d'usuel. Alors ça me plaisait pas trop quand même, alors que la personne m'avait dit des choses très, très, très belles. Donc je suis allée voir ce que voulait dire usuel. Mais usuel, c'est un ouvrage que l'on consulte souvent. C'est pas la même chose. Donc, un dictionnaire, oui, fait partie des usuels, une encyclopédie, un abécédaire. Mais l'usuel, c'est... Voilà. Et en même temps, l'usuel, c'est quelque chose qui est souvent en bibliothèque, donc quelque chose qu'on partage. Donc, le livre, c'est quelque chose à partager. Je lance comme ça. Donc, même dans les remerciements, je remercie le lecteur d'avance. Parce qu'il fait partie de la chaîne.
Ouais. D'ailleurs, vous pensez et parlez avec les paroles des autres. Et pourtant, avec ce livre, vous dites « parler des autres ». D'ailleurs, je le signalais tout à l'heure, votre nom n'apparaît pas sur la couverture. Ce sont les autres qui sont mis en avant.
Alors, le fait que le nom n'apparaisse pas sur la couverture, c'est venu très tard. C'est venu quand, avec le graphiste, on a commencé à travailler. On a travaillé beaucoup par mail, puisqu'il est à Bruxelles. Et donc, il fallait qu'il puisse rentrer dans le projet pour trouver une forme. Et petit à petit, je lui ai expliqué des choses qui avaient à voir. Je lui ai dit que le livre, en fait, c'était comme les nœuds borroméens. Et que s'il y avait un des trois qui loupait sa tâche, le livre, il foirait. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait, moi, en tant que moi, personne, Annick Boulot, qui a fait le dépouillage, le dépouillement, je ne sais pas comment, voilà. Mais lui, le graphiste, quand il arrive, il trouve déjà une forme. Il trouve le ruban. Ça, c'était. Il fallait que voilà. Donc il faut qu'il trouve une forme qui mette en valeur ce ruban. Et puis il y avait le troisième élément qui est l'éditeur. Même si l'éditeur, c'est moi aussi, puisque c'est une association que j'ai créée en 84. Donc on était trois. On était trois plus, alors qu'on est deux, on était deux incarnés, mais on était trois en fonction.
Bah oui, parce que vous n'aimez pas les couples.
Voilà, j'aime pas les couples. Et donc, comment dire, je lui ai écrit un très long mail, qui est en ligne d'ailleurs, que je l'ai mis en ligne. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais à la limite, moi, je voudrais qu'on soit... que la fonction montage et la fonction graphiste soient ensemble, avec un peu détaché peut-être la fonction éditoriale, mais on n'est plus au niveau des personnes, on est au niveau des fonctions. Et c'est là que je lui ai dit, si vous étiez d'accord, vous seriez à égalité avec moi. Et il m'a renvoyé, il m'a... Peut-être pas tout de suite, je me souviens plus. Il m'a renvoyé. Donc, la couverture sans moi, sans Annick Boulot, mais dans la page de titre, on a bien, tout en haut, composition, choix des fragments et montage Annick Boulot, conception graphique, le théâtre des opérations, et tout en bas, on a Antedonia éditeur. Donc, on a des fonctions.
Passage du cinéma 4992, le livre d'Annick Boulot est publié par Ancedonia, mais il est plus prudent de se référer à son site ouvrirlecinéma.org. Du jour au lendemain, Olivier Pasquier, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.